Vous écoutez Radio Bulle au 93.6, votre radio de la Genêt. Myriam avec vous pour une bulle de sagesse en compagnie de Cyril Bolland. Cyril est un apiculteur dans le nord de la Genêt qui est également diacre de l'église orthodoxe. Et il était en train de nous raconter son périple sur les chemins de Jérusalem, qui a été très riche en expériences. Alors, vous nous étiez en train de nous partager, Cyril, le déclic que vous avez eu pendant ce long voyage où vous êtes parti complètement dénué de tout argent. À un moment donné, vous avez renoncé à vous servir de l'argent.
Oui, en tout cas, j'ai senti ça très, très, très fortement. En fait, avant de partir, j'avais eu l'occasion d'entendre un témoignage d'un photographe qui avait fait un chemin vers Jérusalem lui aussi et qui l'avait fait absolument sans rien du début à la fin. Alors, je crois qu'à l'heure actuelle, il y a pas mal d'expériences comme ça qui sont relatées, mais à l'époque, c'était rare, hein. C'était dans les années 2006-2007. Moi-même, je n'avais jamais entendu parler de cette démarche-là. Elle m'avait interpellé et je m'étais dit, mais à quoi bon, puisque voilà, financièrement, je ne manquais de rien, je n'ai pas de raison d'aller là-dedans. Mais ça m'avait quand même interpellé. Lui était très marqué, je crois, par la figure de François d'Assise. Que moi j'apprécie aussi hein, comme saint occidental. Et du coup, ça a fait son chemin, finalement, en moi, c'est le cas de le dire, en marchant. Et ce que je vous disais, c'est cette prière, surtout avec ce couple hein, dans la montagne, là pour le coup, je crois que c'était en Slovénie, qui a été un peu le déclencheur de cette prise de décision qui a mis du temps à oui. émerger. Voilà.
Alors, aussi, j'aimerais que vous reveniez sur votre... Donc, vous nous racontez votre chemin qui a été finalement, vous disiez, presque plus riche que l'arrivée. Mais quand même, quand vous êtes arrivé à Bethléem, qu'est-ce qui s'est passé en vous intérieurement ?
Bah, c'était très fort parce qu'en fait, je suis arrivé à Bethléem le 23 décembre avec quelqu'un, un pèlerin de Jérusalem comme moi, que j'avais rencontré en route, en fait. On est arrivé à deux. On a marché à deux depuis. On avait marché un petit peu ensemble en Turquie. On a remarché ensemble à la frontière la frontière de la Jordanie, quoi. Voilà. Et on est arrivé à deux à Bethléem. Et mes parents m'attendaient en arrivant là-bas. Ce qui est très drôle d'ailleurs, c'est que mes parents m'avaient accompagné sur le début de mon chemin de Saint-Jacques, donc des années avant. Voilà. Et c'était un peu une boucle qui se bouclait avec cette arrivée. Et ce qui a été très touchant pour moi, c'est d'aller dans la chapelle qui est sous l'église Sainte-Catherine à Bethléem, qui serait le lieu en fait, de la crèche. Voilà. Et je me suis retrouvé en prière dans cette chapelle. Et en fait, tout le chemin me revenait. Toutes les images du chemin, comme si tout le chemin se redéroulait sous mes yeux, mais presque en sens inverse, en fait. Et je me disais, mais qu'est-ce que j'ai à offrir pour tout ce que j'ai reçu, toutes ces personnes qui m'ont accueilli tous les jours. Finalement, je me rendais compte que ce chemin, je ne l'avais pas fait tout seul. Comme je vous disais là tout à l'heure, en fait, j'ai dû plusieurs fois renoncer a priori à y arriver. Comme je vous disais, j'ai eu un accident par exemple qui m'a fait me poser la question d'arrêter. Je me rendais compte à quel point finalement c'est pas par mes propres forces que j'étais arrivé au bout de ce chemin, mais grâce à toutes ces rencontres que j'avais pu faire, grâce à cette présence divine qui m'avait aussi accompagné, aidé. Et qu'est-ce que je pouvais bien lui offrir finalement? Je me retrouvais avec les mains vides, quoi. Là-bas en arrivant et je me disais la seule chose que je peux vraiment lui offrir finalement c'est ce chemin que j'ai vécu lui remettre complètement quoi, remettre complètement à ce qu'on peut appeler Dieu ce chemin parcouru en rendant grâce pour ce trésor incroyable de rencontres et puis cette profonde transformation intérieure qui s'est opérée en fait parce que quand je suis parti sur chemin, j'étais, comme je vous le disais tout à l'heure, dans des recherches de spiritualité orientale. Je me posais beaucoup de questions et je m'étais éloigné de la figure du Christ, quelque part. Et ce chemin m'a remis en contact, en fait, avec ma tradition religieuse. Mais m'a ouvert aussi à une dimension plus grande de cette tradition religieuse parce qu'en fait, elle a ses racines en Orient. cette tradition. Et j'avais au cours de mon chemin rencontré des toutes petites communautés chrétiennes orientales, et j'avais été bouleversé par leur leur façon de vivre. Hein. Ils sont souvent minoritaires, très minoritaires, souvent persécutés, et elles tiennent bon depuis 2000 ans. Enfin, je veux dire, c'est les plus vieilles communautés chrétiennes qui existent. Et ça, pour moi, ça a été une découverte et un incroyable témoignage. Et ça m'a énormément touché. Et c'est dans ce contexte-là, en particulier, je pense, que j'ai été rejoint par le Christ et que je suis revenu au Christ de cette manière-là. Et c'est ce qui explique d'ailleurs qu'après, mon chemin dans le christianisme, il s'est plutôt orienté vers le rite oriental, l'église byzantine, à travers finalement cette orthodoxie que j'avais rencontrée en chemin. Voilà, il y a toute une partie du chemin où finalement on est en contact avec soit des orthodoxes, soit en tout cas des chrétiens catholiques de rite byzantin. Voilà, et c'était une vraie découverte pour moi. Je ne connaissais pas du tout ce monde-là avant ce chemin vers Jérusalem. Et ça a été vraiment une expérience, comme je vous disais, très, très enrichissante et très touchante de simplicité. Parce qu'en fait, tel que je voyais le chemin spirituel, moi, jusque maintenant, c'était une ascension. Une ascension vers une quête, quoi, plus un peu ésotérique, donc un peu de quête de pouvoir, d'ascendance, de puissance spirituelle, plutôt une démarche un peu orgueilleuse, finalement. Et à travers ce chemin, c'était tout le contraire. J'ai pris conscience que le vrai chemin spirituel, c'était au contraire, non pas une montée vers, mais une descente, une forme de renoncement, finalement, à soi-même. Un don de soi, qui est une autre définition pour ce qu'est l'amour, en fait. Et que c'était pas du tout ce que je pensais au départ. C'est-à-dire, moi, je partais pour être super Cyril, qui a réussi à faire un chemin de 10 000 km à pied et tout. Et en fait, c'était pas du tout ça, à la fin. C'était cette prise de conscience à quel point, par mes propres forces, j'aurais été absolument incapable de le faire, et que tout m'avait été donné, au contraire. Que j'avais tout reçu. Et que j'étais incapable de rien donner de moi-même, que je recevais tout ce que j'étais capable de donner. Donc ça a été un retournement complet, en fait, dans mes valeurs et dans cette quête spirituelle qui, je vous le dis, s'est complètement transformée. D'une ascension, elle est devenue une descente dans les profondeurs, quoi, de l'être et de l'amour, quoi. Voilà.
Et donc aujourd'hui, ça s'est passé il y a combien d'années ? Une dizaine d'années ?
Un peu plus, hein. C'était en 2007, et on est en 2022, donc c'était il y a une quinzaine d'années.
Il y a une quinzaine d'années. Mmh. Alors après, comment concrètement vous avez incarné ces nouvelles valeurs dans votre vie ?
Par un changement de choix de vie. Je ne suis pas revenu à mon ancien métier. Je pensais reprendre des études et je ne les ai pas reprises. Je vous disais tout à l'heure, j'avais fait des études d'agronomie et j'ai fait des choix beaucoup plus proches de la terre en faisant le choix de l'apiculture, qui n'était pas un choix évident parce que l'apiculture est une profession magnifique mais très difficile à l'heure actuelle. On entend beaucoup parler des problèmes avec les abeilles, ils sont vrais. Et donc on est dans des contextes qui sont quand même vraiment pas faciles pour ça. Et puis une vie beaucoup plus dans des cadres communautaires, en fait. J'ai cherché à faire des expériences de vie communautaire. Je vous ai parlé de Jean Vanier, par exemple, tout à l'heure, avec ce couple que j'avais rencontré en Slovénie. J'ai été 6 mois assistant dans une arche de Jean Vanier. Et après, j'ai aussi été dans des lieux monastiques soit orthodoxe, soit catholique, ou aussi en communauté de l'arche de Lanza del Vasto, voilà, où j'ai vécu des expériences de vie communautaire. Voilà.
Mais aujourd'hui, vous êtes marié ?
Maintenant, je suis marié, j'ai une profession, donc on pourrait avoir l'impression que finalement, je suis revenu un peu dans ce que je vivais avant, mais c'est très différent. C'est très différent dans le sens que je pense que mon épouse, avant ce chemin, j'aurais pas pu la rencontrer. Ça aurait sans doute pas été le type de personne que j'aurais aimé rencontrer avant. Et
parce qu'elle elle a le même cheminement que vous ?
Un peu. On est tous les deux devenus orthodoxes, mais juste avant notre mariage. C'est un choix de couple. Elle avait fait son chemin de Saint-Jacques aussi. Donc c'est le chemin qui nous a fait nous rencontrer quelque part, parce que C'est un ami commun qui m'avait laissé sa paire de chaussures de randonnée à elle, à lui ramener. Et on s'est rencontrés comme ça, autour des chemins. Donc tout de suite, on a parlé du chemin de Saint-Jacques. Voilà. Ça a été, c'est vraiment les chemins aussi qui nous ont rapprochés. Elle a aussi une expérience africaine, comme moi j'ai eu. On a beaucoup de points communs. Voilà. Et c'est vrai que la marche est un grand, grand point commun. On revient d'ailleurs d'un week-end, on était marcher dans les Pyrénées. Vous voyez, on aime beaucoup marcher encore.
Ah oui.
Et l'autre pendant de ça, c'est finalement à un moment donné besoin d'approfondir notre foi. Elle-même était d'origine catholique et étrangement finalement très à l'aise dans le monde catholique, mais ressentant finalement le même besoin moi de faire cette démarche dans l'orthodoxie. Je dis étrangement parce que on n'avait pas le même parcours et je vous dis elle n'avait pas. Elle n'avait pas forcément ce besoin-là au départ, mais elle avait ce désir qu'on fasse ce chemin-là ensemble. Et ça a été une très, très belle découverte. Enfin, moi, maintenant, je fais des études de théologie. J'approfondis ma foi orthodoxe, en fait, et je découvre un monde que j'ignorais au niveau aussi bien théologique que dans la manière de vivre la foi, qui est assez singulier et qui nous rejoint beaucoup.
Et vous disiez que en orthodoxie, on priait beaucoup avec son corps, ça serait ça là,
si on Ah oui, dire. Je vous ai dit ça quand on s'était rencontrés.
Oui, oui.
Ouais. Un des éléments, enfin, pour vous donner un exemple, finalement, on fait énormément de signes de croix pendant les offices. À chaque fois qu'on dit gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, on se signe. Et quand on se signe, en général, on s'abaisse aussi en même temps, on pose la main au sol et on se relève. Donc il y a cet élément physique qui est très présent. Après, l'encens a une grande place et donc du coup l'odorat, les lumières avec toutes les bougies et toutes les icônes. Donc tous les sens en fait sont mis en éveil, sont éveillés pendant la liturgie. Les oreilles bien sûr, l'écoute de la parole et des textes, parce qu'en fait la liturgie orthodoxe est très très riche et qu'il n'y a quasiment aucun silence. C'est paradoxal, mais ça se vit dans en fait énormément de textes qui sont soit lus, soit chantés. Les offices sont riches de chants byzantins et la parole est au cœur de la liturgie aussi. Donc il y a un grand moment qui est vraiment privilégié pour la parole et la parole au lieu d'être lue, elle est psalmodiée avec
on pourrait dire slamée. si on devait faire une comparaison.
Oui, ça pourrait presque être ça, slammer, voilà. Et donc du coup, voilà, tous les sens sont vraiment appelés dans la liturgie. Donc c'est tout le corps, toute la personne, hein, dans toutes ses dimensions qui est appelée à prier, en fait.
Et donc vous me disiez qu'il n'y avait qu'une douzaine de personnes. Vous êtes vous aussi finalement minoritaire dans le Lot-et-Garonne.
Ah oui, alors je pense qu'il y a plus d'orthodoxes que ça. Mais ils ne sont pas forcément au courant de l'existence de notre paroisse. Et puis après, c'est aussi le rythme de chacun, des personnes qui ne sont pas là forcément régulièrement aux offices. On va dire qu'on est, entre 10 et 15, généralement entre 10 et 15 personnes. Et des fois un peu moins, des fois un peu plus.
Donc si on veut assister à découvrir un de vos offices, c'est tous les deuxièmes dimanches du mois.
C'est ça, exactement. C'est, à l'heure actuelle, tous les deuxièmes dimanches du mois, il y a une divine liturgie, donc c'est l'équivalent de la messe, qui a lieu à 9h30 avec les matines, à 10h avec la liturgie, à l'église de Madaillan, sur la commune donc, de Céfrès, c'est l'église Saint-Barthélemy qui est à côté de la mairie de Madaillan.
Juste à côté d'Agen.
Et c'est à un quart d'heure d'Agen.
Eh bien, je vous remercie, Cyril, pour nous avoir partagé ce beau parcours. J'imagine que vous auriez encore plein de choses à nous raconter, mais je vous réinviterai dans cette émission.
Merci, Myriam.
C'était Bulle de Sagesse avec Myriam.
Et mon invité du mois, Cyril Bolland.
Cette émission sera rediffusée dimanche à 20h sur le 93.6. Et ensuite, vous pourrez la réécouter en podcast sur bullefm.net. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine avec les aventures d'Amélie, cette grande voyageuse de l'imaginaire. Belle semaine à tous !